Jedha apporte rarement quoi que ce soit d'intéressant en termes de stratégie, faute à une voie d'estente pénalisante, une piste peu abrasive et à sa forte probabilité d'interruption de course qui encourage les équipes à miser sur une approche très conservatrice pour la course. Avec un très jeune pilote sans expérience au volant d'une Ferrari qu'il a découverte le matin des qualifs, on a vu une voiture de sécurité arriver en début de course sans grande surprise parce que Cyberman était irréprochable. On rappelle que Lance Stroll lui est toujours là et que ce genre de choses arrive souvent quand il est là. On va donc tout de suite parler des stratégies pneumatiques parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à écarter immédiatement et qu'il n'y aura pas grand chose à dire par la suite. Tout le monde a commencé sur des pneus médiums sans grande surprise. Comme habituellement, Fernando Alonso et Lance Stroll, donc dans l'équipe Aston Martin, ont débuté sur des gommes qui avaient déjà servi. Un petit truc qui est toujours intéressant à relever, que Aston est une des rares équipes qui commence toujours avec des pneus qui ont un petit peu roulé. Et on notera que Bottas et Berman étaient les deux seuls pilotes à démarrer avec des pneus tendres. On peut penser que peut-être dans le clan de Bottas, on estimait qu'il y avait moyen de remonter plus rapidement dans le peloton en début de course, puisqu'il a été exclu de la Q1 un petit peu en ayant été gêné lors des qualifications, et peut-être il y avait un peu d'espoir, et du côté de Oli Berman, c'est certainement pour faciliter un petit peu plus la tâche aux jeunes pilotes, puisque on s'est dit que si on lui fait démarrer un Grand Prix de Formule 1 avec beaucoup d'essence, avec des températures de piste pas particulièrement très élevées, il allait peut-être un peu plus être en difficulté pour les mettre en température. Donc, en le mettant tout de suite avec les pneus qui sont le plus faciles à faire chauffer, j'imagine que c'est pour ça que chez Ferrari, on l'a fait partir avec des pneus tendres. Et je mentionnais donc la voiture de sécurité. Sans grande surprise, tout le monde s'est arrêté au tour numéro 7 lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste, à quelques exceptions près, puisqu'on a chez Alpine, on a tenté quelque chose d'assez original avec Pierre Gasly en le faisant arrêter dès la fin du premier tour sans le relancer par la suite. Et on notera donc que Norris, Hamilton, Hülkenberg et Joe sont les seuls à avoir tenté de faire durer leur pneu médium jusqu'à plus loin pendant la course, dans l'espoir peut-être qu'une autre interruption de course allait arriver, ce qui n'a pas été le cas. Et le seul dans le lot qui en a profité vraiment, ça a été Nico Hülkenberg, non sans l'aide de son coéquipier, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors les graphiques des rythmes de course qu'on va regarder aujourd'hui, proposés par Tonton Strigone, on a décidé de ne prendre en compte les temps en course qu'à partir de la relance, donc au 10-11e tour. C'est pour ça qu'on ne verra pas Lance Stroll et Pierre Gasly sur ces graphiques, parce qu'ils servaient un petit peu à rien, et que finalement les premiers tours apportent pas grand chose et ils sont beaucoup plus simples à lire en excluant ces 10 premiers tours. Il en ressort sans surprise que les Red Bull sont toujours la force principale avec les Ferrari un petit peu derrière, même si on imagine que dans les deux clans, enfin aujourd'hui Ferrari étant principalement représenté par Charles Leclerc, mais je vais y revenir un petit peu plus tard, on voit que j'imagine dans les deux clans on n'a pas totalement poussé. À l'inverse, si on regarde chez Aston Martin, enfin la Aston Martin de Fernando Alonso, qui a des chronos assez proches de ceux de Charles Leclerc, mais de son côté Alonso, on sait qu'il a poussé lui toute la course pour justement essayer de se défendre de la remontée des Mercedes et McLaren derrière lui. Mais sinon, il semble assez clair que du côté de McLaren et de Mercedes, on est toujours un petit chouïa derrière la Ferrari, puisqu'encore une fois, les deux étaient un peu plus sur des courses d'attaque, là où chez Ferrari, on était un petit peu plus à l'économie. Et ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu ce milieu de peloton qui va du 10e jusqu'au 20e, avec les deux As qui se dégagent comme une force assez intéressante ce week-end, on va y revenir, et avec un brin d'avance donc sur les Williams, les RB et les Kick. Il y a aussi les Alpines qui sont passés faire coucou. J'ai Red Bull, un assez bon boulot des deux pilotes, même si je pense qu'on peut dire assez bon pour le clan de Sergio Perez et toujours proche de l'excellence pour Max Verstappen, qui a à nouveau sorti un sublime temps en qualification, préparant parfaitement son week-end, toujours en travaillant ses rythmes de course en essai libre et en trouvant son chrono parfait au fur et à mesure de la qualification. Et du clan Perez, je trouve aussi un assez bon boulot pour finalement réussir à se démarquer de tout ce peloton en qualification, n'étant que quelques millièmes derrière la deuxième place de Charles Leclerc et qu'il a rapidement évincé dans les premiers tours de course, démontrant qu'il y avait beaucoup plus de rythme rythme dans sa Red Bull. Et il a écopé ensuite de 10 secondes de pénalité qu'il a assez aisément pu balayer en fin de course en créant un écart suffisant face à Leclerc. Et je crois que j'ai dit 10 secondes, non, c'était 5 pour un, je cite, anglicisme unsafe release. Je poursuis donc en allant faire un tour chez Ferrari qui transpirait ce week-end. Carlos Sainz qui est tombé malade, qui est arrivé malade, étant absent lors des conférences de presse du mercredi. Oui, faut s'y faire ses horaires décalés, mais ça revient à la à peu près normale dès l'Australie. Il était malade. Après quelques tours, il était totalement détruit lors des essais libres. Et sans hésitation, Fred Vasseur a tout de suite été voir Oli Berman et lui dire « Allez, tu roules pour nous ce week-end ». Chez Ferrari, on a plusieurs pilotes de réserve. On sait que Oli Berman sera le pilote de réserve sur tous les week-ends où il y aura des courses de Formule 2. Ce week-end, il y avait Formule 2 pour lui, il avait fait la pole position d'ailleurs. Et sur les autres week-ends, ce sera Antonio Giovinazzi ou Robert Schwartzman, mais on sait que les deux sont dans le programme WEC de Ferrari et ce week-end, ils étaient dans une course au Qatar, donc ils étaient absents. Mais voilà, ils ont bien préparé leur planning et honnêtement, ça a été un petit peu une surprise de découvrir à quel point Vasseur et Ferrari étaient totalement confiants, sans hésitation à l'idée de tout de suite confier un rôle si important à un pilote aussi jeune et inexpérimenté que Oli Berman. On sait qu'ils l'ont fait rouler lors de tests privés à Barcelone en début de saison, où il avait justement bien impressionné Ferrari, il avait déjà impressionné Haas. Ils en parlaient après les essais Pirelli à Abu Dhabi où il avait roulé pour l'équipe Haas et où il avait fait deux sessions d'essais libres obligatoires l'année dernière à Mexico et Austin, si je dis pas de bêtises. Mais il y a eu une confiance totalement aveugle et absolue dans Oli Berman et il l'a rendu à la perfection, je trouve. Tout de suite, il a attaqué. Il n'y a pas vraiment eu de grosse période d'adaptation, pardon. Tout de suite, il l'a attaqué. Ensuite, les 5-6 dixièmes d'écart qu'on a trouvé avec Charles Leclerc tout le long des séances d'essai, même lors des rythmes de course, il me semble tout à fait tolérable. Une demi-seconde, ça reste au demeurant rien du tout. Et quand on sait que à côté, on regarde dans les garages Aston Martin ou Williams où on a Albon et Alonso qui en collent autant ce week-end à leurs coéquipiers respectifs en moyenne, on se dit que c'est plus que décent le boulot qu'il a fait, terminer 7e au drapeau à Damier. On peut se dire que c'est aussi un résultat qui aurait été un peu décevant mais tolérable pour une Ferrari ce week-end si Leclerc ou Sainz avaient été pris d'une bêtise en Q2 et qu'ils avaient aussi démarré 11e, et sachant que devant les Mercedes, McLaren, Aston Martin sont certains crans en dessous mais ont quand même un rythme suffisant pour un petit peu les taquiner, on peut se dire que terminer 7-6e, ça aurait pu être un résultat tout à fait décent. Et en plus d'avoir du rythme, il a prouvé qu'il pouvait attaquer aussi avec une sublime manœuvre sur Yuki Tsunoda à la relance. Dès le début de course, en plus, il était pris dans une lutte entre Tsunoda et Magnussen. Deux pilotes qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir à affronter quand on fait ses débuts dans une Ferrari, dans le peloton, puisque Tsunoda et Magnussen, c'est les pilotes qui n'ont pas peur de froisser de la tôle pour protéger leur position. Donc honnêtement, Berman, je pense qu'il a impressionné beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas, et il a confirmé tous les espoirs que certains voyaient déjà beaucoup en lui. Et Charles Leclerc continue avec une superbe série de 6 premières lignes consécutives, c'est dur à dire 6 fois première ligne, bref, on dira qu'il a fait l'absolu maximum de ce qui était possible à faire avec une Ferrari, avec une première ligne, donc battre une des deux Red Bull une seconde fois consécutive, et terminer donc sur le podium, là où on a envie de dire où est la place logique, entre guillemets, de la Ferrari, en voyant la hiérarchie qu'on a regardée au début. Et maintenant, on va partir dans la partie un peu plus complexe. On va attaquer avec les Mercedes de George Russell, Lewis Hamilton, qui terminent 6 et 9e. Hamilton, toujours très mécontent de la stabilité de son train arrière, et qui a quand même tenté une stratégie inversée, comme on l'a vu au début, en restant en piste. Il a livré une magnifique défense face à tous les revenants, derrière lui, Leclerc, très longtemps devant Oscar Piastri aussi. Mais avec une usure pneumatique plus importante, il était normal qu'il finisse par chuter. Et terminer 9e, j'ai envie de dire, en partant 8e, Je pense que ça valait le coup de prendre le pari chez Mercedes, on n'a pas perdu grand-chose. Juste une position face au Lieberman qui est remonté un peu logiquement. Et chez George Russell, à nouveau, je trouve un boulot très solide qu'on peut encore un petit peu mettre, je trouve, dans une zone d'ombre, Russell. C'est vraiment un ressenti personnel, hein. Je trouve qu'on a tendance un peu toujours à l'éclipser, mais j'ai vraiment toujours beaucoup d'appréciation pour le travail de ce pilote, que ce soit en qualification ou en course, et dans les deux cas, je trouve qu'il a régalé avec une très belle remontée sur Alonso en fin de course, mais les écarts sont tellement minimes entre chaque constructeur que avoir un demi-dixième, un dixième supplémentaire, ça peut suffire à faire la différence sur les chronos de course, sur les chronos en qualification, mais c'est pas suffisant pour aller chercher un concurrent et le dépasser. Chez McLaren, donc, on termine 4e avec Oscar Piastri et 8e avec Lando Norris. Lando Norris qui a donné un petit peu de joie à McLaren puisqu'ils ont pu permettre à leurs photographes d'avoir quelques images de Norris qui mène le plateau devant Verstappen. C'est pas mal pour la com, je pense. Mais à part ça, ça a été une course de descente aux enfers. Non la faute d'un rythme insuffisant. On voit que l'écart entre les deux est toujours ridicule. On est sur du demi-dixième. On parle là de poils de fion pour ceux qui parlent en termes techniques. J'avais extrait un petit segment de live où on expliquait après la course pourquoi Norris n'avait pas été pénalisé pour avoir bougé sur la ligne de départ. Pour vous la faire très courte, la version officielle est vraie de vrai et ce que je vais dire est factuel, vérifiable. Norris n'a pas été pénalisé tout simplement parce que le capteur qu'il y a sous la voiture n'a pas déclenché d'alarme dans le bureau de la direction de course disant qu'il avait sauté le départ. Et les règles concernant les départs sautés est très simple. Si le capteur n'a pas été déclenché, il n'y a pas de faux départ, il n'y a pas de départ sauté ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, même si on voit que il a sauté le truc et que le capteur est défaillant. Dans ce cas-là, il semble qu'il n'y a pas de capteur défaillant, mais voilà l'explication. Mais pour l'expliquer très clairement à ceux qui sont restés sur la version « Oui, mais à la télé, ils ont dit que parce que après il a freiné, il s'est pénalisé tout seul », c'est n'importe quoi. Donc voilà, si vous avez entendu ça à la télé, c'est soit que les commentateurs sont incompétents et ont raté un truc, soit que vous avez mal entendu la suite du propos. Dans les deux cas, le fait de s'auto-pénaliser ne justifie jamais une absence de sanction. Donc dans ce cas-là, c'est parce qu'il n'y a pas eu de capteur déclenché. Et Piastri, il a fait ce qu'il fallait en se débarrassant très rapidement d'Alonso en début de course et en sécurisant une quatrième position qui est une place très importante pour l'équipe McLaren dans une saison où, pour le moment, le concurrent direct est très clairement Mercedes. Donc à nouveau terminé devant les deux, c'est très important pour eux. Et on va parler un petit peu de Aston Martin Alonso puisque... Là, c'est un sublime week-end qu'il nous a accompli, je trouve, en prenant la 4e place sur la grille de départ en qualification. C'était au poil de fion, hein, encore une fois, mais le fait qu'il ait réussi à être dans cette lutte pour la 2e place sur la grille, pour vous le donner à la louche, l'écart entre Leclerc et Alonso sur la grille de départ, c'est aussi un demi-dixième. Donc, il y a un moment, quand ça se joue à ça, ça se joue à un éternuement. D'ailleurs, je vais poster dans les prochains jours sur la chaîne Blabla F1 VOD, donc chaîne secondaire de replay de live. On a fait une analyse rapide de leur tour de qualification. Donc je vais extraire le segment. Je pense que pour ceux que ça peut intéresser, à défaut d'avoir de vraies analyses de qualif aujourd'hui qu'on n'a pas pu vous proposer, je vais vous poster ça en aparté pour ceux que ça peut intéresser de regarder un peu les télémétries. Donc voilà, ça, on a regardé ça, ça se joue vraiment à rien du tout. Donc un demi-dixième, et quand on voit qu'en course, il se fait déposer par Piastri en début de course, il peut rien faire, et pourtant il a enchaîné les tours de qualif, comme il l'a dit, sur les 15-20 derniers tours, il a attaqué constamment pour se prévenir du retour de Russell en fin de course. C'est à nouveau un sublime boulot de Fernando Alonso, et on peut être déçu presque de se dire que l'Aston est un chouïa en dessous de la McLaren et de la Mercedes, parce que il pourrait apporter beaucoup à cette lutte, je pense. Et bon, je vais pas parler de Lance Stroll, il y a un moment, je crois que j'ai fait au moins 2 vidéos sur le Chevalier Lens. Donc voilà, c'est si vous voulez quelque chose de purement cathartique pour se défouler sur lui, je vous y renvoie avec grand plaisir et beaucoup d'humilité parce que je suis quelqu'un de très humble et talentueux. Et là, je me dis que les Jean-Michel premier degré doivent avoir pété dans leur slip. Ouais, ça me désole d'avoir à le faire, mais je sais que des fois, il y en a qui ont mal à saisir les moments où je déconne de manière outrancière et où, ceux où je suis sérieux. Donc, je suis navré d'avoir à me justifier auprès des plus fins plaisantins d'entre vous, mais j'ai vraiment la flemme de me taper des discussions, disputes, oserais-je dire, sur mon niveau de prétention. Parce que voilà, quand on est un génie comme moi, on n'a pas de temps à perdre. En parlant de génie, un petit bisou à Yuki Tsunoda, qui me fait toujours plaisir. Je sais que il fait pas l'unanimité, mais honnêtement, passage en Q3, battre Lance Stroll. Bon, on a envie de dire que faute à Lance Stroll, mais il l'a quand même fait. Avec une course qui a été, je trouve, très solide, mais bon, il a subi 5 secondes de pénalité également. Mais là, c'est pour autre chose, c'est pendant le tour de reconnaissance, avant que les pilotes se mettent sur la grille de départ, il est retourné au stand, en fait, et il a coupé la ligne de stand. Donc, même si c'était 40 minutes avant la course, c'est quand même sanctionnable. Donc voilà. Mais à part ça, j'ai trouvé qu'il a fait un beau boulot de défense. Encore une fois, je vous remets le graphique des rythmes de course, on voit clairement que face à la Williams, un peu face à la Kick et plus ou moins à égalité avec l'Alpine, la RB est clairement un cran en dessous, ce qui confirme les théories selon laquelle la RB va jouer le top 3 cette saison puisque c'est la Red Bull de l'an dernier. Et Daniel Ricciardo de son côté, je suis désolé pour ses fans. À la ramasse en qualif, un tête à queue débile en course. En tant que fan d'Aiki Kovalainen, je compatis. Et dans cette digression, ça m'a totalement fait penser au fait triste que Monsieur Kovalainen, on a une nouvelle récente de lui qui va devoir subir une opération à cœur ouvert. Alors actuellement, il est en bonne santé, mais il va devoir être... Il a arrêté sa carrière pour le moment de pilote en rallye et au Japon pour aller se faire opérer puisqu'on lui a décelé quelque chose de pas très réjouissant. Des bisous à Aiki, tu m'as fait rêver à 2-3 moments dans ma vie. Et en parlant de pilotes qui font rêver, monsieur Nico Hülkenberg qui ramène le point lâché par les 5 top constructeurs. Merci Lance Stroll encore une fois qui permet à Haas de grimper à la 6e place du championnat avec du coup Hülkenberg et Magnussen qui ont fait une très belle course d'équipe tous les deux. Magnussen et Haas qui ont un petit peu à nouveau rapporté un peu le débat du jusqu'où vont les limites des sanctions qu'on peut imposer à un pilote et surtout des manœuvres plus ou moins anti-sportives. J'admets que pour le moment, je sais pas, c'est très délicat. C'est très délicat comme question, mais je trouve que ils ont exploité à merveille un peu le règlement. Alors je vais replacer un peu le contexte pour quand même on se remette tous les mêmes choses en tête. Hülkenberg est resté en piste lors de la safety car, ce qui lui a permis du coup de gagner toutes les positions perdues, puisqu'il partait 15e à cause d'un problème moteur en Q2. Il s'est retrouvé dans le top 10, logiquement donc devant son coéquipier Tsunoda et tout le reste. Et comprenant que Kevin Magnussen, son rôle allait être d'essayer de bloquer autant le peloton que possible pour laisser Hülkenberg s'enfuir, a dépassé Yuki Tsunoda, qui était entre les deux. Il l'a dépassé de manière illégale, hors de la piste, ce qui lui a valu 10 secondes de pénalité, mais c'était 10 secondes de sacrifié pour Magnussen, puisque son rôle allait être de tenir Tsunoda et tout le reste du peloton aussi longtemps que possible pour permettre à Hülkenberg de filer. Et encore une fois, démontrant qu'il y avait du bon rythme dans la Haas, puisque une fois débarrassé de Tsunoda, Magnussen a pu s'enfuir, justement. Donc ça a permis aux deux Haas de terminer 10e et 11e en piste, 12e avec la pénalité de Magnussen, qui a aussi pris 10 secondes pour un contact avec Alex Albon, un contact avec le recul et justement la version d'Alex Albon, une pénalité qui me semble du coup fortement injustifiée puisque je vais mettre l'interview d'Albon, ce sera plus simple.
Honestly, it's a racing incident for me. I really don't like this corner. I don't know if you know that. I don't know why we've designed a corner that kind of sticks out.
Yeah, the last moment sort of pivots that.
Some of these tracks recently, they like this kind of like awkward angle. They'd normally do it on pit exit, on corner exits, where you have to kind of like turn away from the corner to miss a wall. Baku comes to mind, or they love these little awkward kinks, and it just means it's very awkward for the car on the inside to judge the space, because you leave a good space the whole way down the straight, and then in the last minute you've got this kink that comes out you, and you get the driver on the right gets squeezed, the guy on the left doesn't judge it as well, and actually when I overtook him and we were side by side into turn four, that's when I got the appreciation for Kevin's problem, because I was like, hang on a minute.
You did give him a lot of space.
I better
though.
Not give him. I was like, if I do the same mistake Kevin did to me, I look like an idiot. So I'll give him a little bit more space.
Donc voilà, j'ai rien à ajouter, honnêtement. Je rejoins, il est pilote. Il y a un moment, il sait beaucoup plus que n'importe qui ce que ça peut impliquer. Et c'est vrai que, tout prétexte pour cracher sur les circuits modernes, je prends. On va justement parler un petit peu des Williams avec un nouveau week-end solide pour Alex Albon, avec un beau passage en Q2 avec la 12e place, donc qui s'inscrit un peu en tête du reste du peloton. Malheureusement, en rythme de course, il n'y avait pas grand-chose à faire, comme on le voit sur les graphiques des rythmes de course, même s'il s'est fait un peu plaisir avec deux beaux dépassements sur Tsunoda puis sur Ocon. Et Logan Sargeant, il était là ce week-end. Chez Alpine, je vais garder à peu près la même version, ils sont venus, ça fait plaisir. Même Esteban Ocon a fait, je trouve, un très beau week-end, une très belle course, à défaut de pouvoir vraiment juger le reste du week-end, sachant que l'Alpine est la dernière force du plateau à l'heure actuelle. Très belle lutte dans le peloton pour rester justement dans ce petit groupe de DRS, avec une belle manœuvre sur Yuki Tsunoda également. Pour Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, on peut dire que leur kick était pas si molle ce week-end, mais qu'elle était quand même un petit peu défaillante à cause de quelques soucis qu'on va raconter. Du côté de Zhou, ça a été à cause d'un crash en essai libre 3, donc là j'ai envie de dire qu'il a payé le prix en qualification en devant partir du fond de grille. Mais il a livré une course solide à nouveau, je trouve, dans la continuité un peu de ce qu'on a vu à Bahreïn. Malheureusement pour lui, la safety car, la deuxième voiture de sécurité, n'est pas arrivée, et ça a un petit peu réduit cette stratégie inversée au néant, et qui plus est, ça a été traduit par un arrêt d'environ une trentaine de secondes, donc un peu mieux que celui de Bottas qui était de 52 secondes la semaine dernière, mais c'est quand même pas top. Et le week-end de Bottas a été rendu compliqué à cause d'un peloton un peu trop présent lors de son tour rapide en Q1 qui l'a forcé un peu à ralentir et à gâcher son tour, et qui me permet encore une fois de souligner à quel point je déteste ce circuit quand on voit les différentiels de vitesse en qualification entre ceux qui se mettent sur le côté pour laisser passer et ceux qui sont dans des tours rapides. Je vous jure que si un jour il se passe un truc, il y a le pilote qui va décoller, on va aller le repêcher celui-là. Et quand je dis on va le repêcher, ça va être littéralement, et ça va être avec un corbillard. Ouais, désolé, c'est un peu morbide, mais il y a un moment, c'est tout ce que ça m'évoque de voir de tels différentiels de vitesse sur un circuit aussi claustrophobique. Voilà. Bref, je vous renvoie une nouvelle fois sur d'aller surveiller BlaBlaF1 VOD pour ceux que ça peut intéresser dans les prochains jours, peut-être dans le week-end. Et des gros bisous, merci de votre présence, merci la vie, chantons la vie et à bientôt.